Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 3 septembre 2025. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah et bonjour tout le monde.
Nous voilà de retour de notre semaine de vacances, bien reposés.
Oui.
Quelles sont les nouvelles financières qui ont retenu ton attention depuis notre dernier balado le 11 août?
Bien, il y a eu plusieurs données économiques qui sont sorties, mais en bout de ligne, ce qui retient mon attention, c'est encore l'excellente performance des marchés boursiers durant le mois d'août. Encore une fois, quand on part en vacances, les marchés montent. Fait que peut-être vous allez suggérer qu'on devrait être toujours en vacances là, au bénéfice de nos investisseurs. Mais bon, blague à part, le TSX est en hausse de 3,9% durant le mois d'août, tiré par deux secteurs très importants de l'indice. Les matériaux, donc on pense ici aux titres orifères, par exemple, et les secteurs financiers, les banques, là, qui ont eu d'excellents résultats financiers dans l'ensemble. On pense juste à, par exemple, la Banque de Montréal. Je regardais ce matin sur un an. Donc, on se souvient, l'année passée, la Banque de Montréal annonçait des provisions pour pertes sur prêts. Le titre avait baissé suite aux résultats financiers. Ben, un an plus tard, le titre est en hausse de 54 %. C'est à peu près équivalent à la hausse du titre de Nvidia durant la même période. Donc, pas toujours besoin d'aller dans des secteurs super sexy en technologie pour obtenir des bonnes performances. Des fois, des vieilles entreprises qui payent un bon dividende peuvent faire le travail. Mais c'est le cas aussi pour la Banque TD, la Banque Royale et tout ça. Donc, 3,9% durant le mois d'août pour le TSX. Du côté américain, un petit peu plus tranquille, mais quand même positif. Là, 0,7% sur le S&P 500, 0,8% sur le Nasdaq. Et à l'international, si on regarde l'indice Europe-Australie-Extrême-Orient, donc les pays développés, 1,9% durant le mois d'août. Donc, ça va en général bien. Les titres obligataires, donc légère baisse des taux d'intérêt durant le mois d'août. On a commencé le mois à 3,47% sur les obligations de 10 ans. On est à 3,44%. Donc, bon, on ne s'excite pas, là, mais c'est dans la direction qu'on souhaite. On rappelle que quand les taux d'intérêt baissent, la valeur des obligations augmente. Donc, on veut que ça baisse, autant pour notre prêt hypothécaire que pour la valeur au marché de nos obligations. Le dollar canadien est demeuré stable. Il y a la compagnie Brookfield Corp, là, beaucoup de nos clients détiennent ça. Ils ont annoncé qu'ils vont fractionner leurs actions. On va en reparler un peu plus proche de la date. Ça va se passer le 13 octobre. Donc, entre le 10 et le 13 octobre, ça se peut que dans vos comptes, vous allez remarquer que la valeur a baissé parce que les nouvelles actions n'auront pas encore été déposées. C'est correct, donc attendez une journée ou deux, là, puis ça se résorbe. On va aussi mentionner, c'est la rentrée des classes, c'est le mois de septembre. Qu'est-ce qui arrive en septembre? Bon, il y a ce qu'on appelle sur la bourse le September Effect, l'effet septembre. Septembre étant le pire mois des 12 historiquement en termes de performance. Donc, si on regarde depuis les années 50, le rendement moyen en septembre se situe à 0,7% négatif. Donc, c'est un de deux mois qui est une performance négative et c'est le pire. Ceci dit, il est négatif seulement 56% du temps. Donc, tu sais, l'idée de dire « Ah, ben, OK, je vends tout puis je reviendrai au mois d'octobre », ben, tu sais, quand ça baisse de 3,6. Quand ça monte de 3,2. Donc, tu sais, ça ne vaut pas vraiment la peine là, de faire ça. Si on exclut, il y a vraiment trois années où le mois de septembre a été très fortement négatif, ce qui fait que la moyenne, elle est à moins 0,7, mais la médiane, donc quand on exclut les extrêmes puis on prend le chiffre du milieu, c'est une baisse de 0,3 seulement. Tu sais, c'est pas la fin du monde, là. En 2002, le marché a fait moins 11% en septembre. On se souvient, Nortel Network, peut-être, ça va faire des cauchemars à certains.
Oui.
2008, quand Lehman Brothers a fait faillite, moins 9% durant le mois de septembre. Et là, ben, on s'en souvient pas tellement, Sarah, on avait quelques mois à peine, en 1974, la crise du pétrole, le marché avait baissé de 12%
durant le mois
de septembre.
Et c'était quel mois, 1974?
Ben, nous, c'était en mai, mais ça, c'était le mois de septembre 1974.
OK, oui, non, on s'en rappelle.
Exact. Et dans les dernières nouvelles, là, rapidement, Alimentation Couche-Tard a rapporté des résultats financiers, donc en baisse par rapport à l'année passée, mais beaucoup meilleur que les attentes, donc ça devrait bien réagir. L'appel conférence est ce matin, donc on aura plus de détails un peu plus tard, vers 8h30. Et puis Google a reçu, donc il y avait beaucoup de gens qui craignaient que le titre se fasse fractionner. Finalement, le jugement est tombé hier. Bon, il y a eu quelques tapes sur les doigts, là, mais essentiellement, pas de fractionnement de l'entreprise. Donc, le titre réagissait positivement ce matin sur la bourse.
Bien, merci beaucoup, Martin, pour ces nouvelles. Comme à tous les débuts de septembre, nous allons profiter du retour des classes, des élèves, pour parler du fameux régime enregistré d'épargne-études, ou REE. C'est un plan qui est souvent mal compris. On a plusieurs discussions autour de ce plan-là, surtout quand ça arrive au décaissement de ce plan. Nous ferons un retour aujourd'hui sur les modalités du plan, comment décaisser de façon fiscalement avantageuse pour toute la famille et qu'est-ce qui arrive si le bénéficiaire ne va pas à l'école postsecondaire. Donc, c'est un sujet qu'on a couvert, qu'on va continuer de couvrir pour vous tenir informés puis vous aider avec tout ça à fur et à mesure. Si vous avez des petits enfants, des enfants, des neveux, nièces, et vous avez déréé cet épisode et pour vous. Donc, pour commencer, Martin, est-ce que tu peux nous parler des modalités de base du REE?
Bien, les modalités de base du REE, c'est un outil puissant d'épargne. Là. C'est selon moi un des meilleurs régimes d'épargne qui existe. Là. Si on a des enfants ou des petits-enfants, il faut profiter de ça. On reçoit 30 % d'argent gratuitement du gouvernement essentiellement. Donc, si je cotise dans un REE jusqu'à un maximum de 2 500 par année, je reçois 20 % du fédéral et 10 % du provincial. Donc, tu sais, c'est comme si je pars l'année avec un rendement de plus 30 %. Ceci dit, le montant maximum qui donne droit à la subvention est de 2 500, mais on peut cotiser 5 000 par année. Donc, le deuxième 2 500 ne donne pas droit à la subvention. Pourquoi je ferais ça? Bien, parce que les revenus de placement sont à l'abri de l'impôt aussi. Donc, si j'ai mon REER est plein, mon CELI est plein, il me reste de l'argent, j'ai un REER, pourquoi pas le mettre dans le REER? Même si je n'ai pas de subvention, au moins le rendement du placement sera à l'abri de l'impôt. Ça va permettre, en quelque sorte, de faire un fractionnement de revenus. C'est-à-dire qu'au moment du retrait, bien, les revenus de placement seront imposables, mais dans les mains de l'étudiant. Donc, subvention maximum fédérale pour l'épargne étude, donc SCEE, subvention canadienne pour épargne étude, 7 200 par enfant. Donc, si j'ai cotisé 36 000 dans mon REE au fil du temps, ben, je vais atteindre le 7 200. Après ça, il n'y a plus de subvention. Au Québec, c'est 3 600, donc la moitié, le 10 %
Parfait. Et quand vient le temps de retirer, il faut vraiment... Puis ça, c'est la partie que les gens ne comprennent pas trop. Et moi, il faut toujours que tu me le rappelles aussi. Il faut distinguer deux types de retraits. Est-ce que tu peux nous décrire ces deux types de retraits?
Oui, donc il va y avoir d'abord le paiement d'aide aux études, le PAE. Vous allez voir ça, on en parle pareil, souvent, le PAE. Donc, c'est tout ce qui compose à l'intérieur du REE, les subventions reçues du gouvernement et les rendements obtenus. Donc, ces montants-là sont imposables dans les mains de l'étudiant. Okay? Donc, ça se peut que votre étudiant travaille un petit peu à temps partiel, il y a quelques milliers de dollars de revenus par année. Donc, les retraits du REE seront imposables dans ses mains, présumément à peu ou pas d'impôts, mais c'est possible. Il y a certains étudiants qui ont quand même des bons emplois puis des bons revenus. Donc, c'est à y penser. Là. Des fois, on dit « OK, ouais, mais le cégep, ça ne coûte pas très cher, fait que je vais attendre à l'université ». Oui, mais à l'université, ça se peut que votre enfant ait des revenus un petit peu plus élevés à temps partiel, puis là, soudainement, il paie de l'impôt. C'était peut-être une meilleure idée de le retirer là, dès qu'on peut, pendant qu'il y a moins de revenus. La deuxième portion du retrait, donc le PAE, les subventions et les rendements, donc qu'est-ce qui reste dans le plan? Bien, il reste les cotisations. Donc, l'argent que le souscripteur, bien souvent le parent, là, mais ça peut être quelqu'un d'autre, donc l'argent que le souscripteur a mis dans le REE peut être sorti du REE sans impôt pour personne. Et il revient soit au souscripteur, soit au bénéficiaire, qui est l'étudiant.
Parfait. Puis est-ce que tu as des conseils, puis je le sais que tu en as, pour les parents ou grands-parents qui commencent à retirer des REE?
Bon, donc je l'ai mentionné, là, l'argent, il faut faire une distinction entre qu'est-ce que je fais avec l'argent, puis quelles sont les conditions pour retirer du REE. Donc, les conditions pour retirer du REE, c'est que je dois être un étudiant à temps plein dans une école postsecondaire. Si vous n'êtes pas sûr, là, vous vous dites « Ah, je vais aller étudier à l'étranger », allez sur le site du gouvernement, la liste de tous les établissements éligibles sont là, juste à googler là, « école postsecondaire éligible REE », là, puis vous allez tomber sur la liste.
Ou l'écrire dans ChatGPT.
Ou dans ChatGPT. dès que je suis éligible, étant donné que ça se peut que mon éligibilité change éventuellement, ça se peut que l'étudiant interrompt ses études, ça se peut qu'il y ait un accident, qu'il y ait un décès. T'sais, c'est plate, là, c'est tragique, mais c'est ça la réalité pareil. Donc, dès qu'on est éligible, on devrait faire des retraits. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de payer des livres puis des frais de scolarité avec. On peut faire qu'est-ce qu'on veut avec cet argent-là. Donc, on peut peut-être la mettre dans le CELI au nom de l'enfant. Est-ce qu'on rouvre un CELIAP, un CELI pour l'achat d'une propriété? Est-ce qu'on fait simplement la mettre de côté? On avait retiré l'argent, le chèque, quand on retire le paiement d'aide aux études, là, le chèque il est fait au nom de l'étudiant. Fait que, on prend notre enfant par la main, là, on va à la banque avec, puis il encaisse le chèque. Puis on peut à ce moment-là prendre et payer les études s'il faut, mais on peut aussi juste simplement l'épargner pour l'utiliser plus tard. À partir du moment où c'est sorti du REI, donc si j'ai décaissé le paiement d'aide aux études, je décaisse les subventions, bien si on interrompt les études, les subventions ne retournent pas au gouvernement parce qu'elles ont déjà été décaissées. Donc, idéalement, on décaisse les subventions d'abord, le rendement ensuite, puis ensuite les cotisations, ça presse moins.
Puis c'est une façon aussi de montrer à vos enfants comment investir. Donc, souvent, les parents vont donner, puis ça, on l'a déjà dit sur le balado aussi, vont donner l'argent à l'enfant. L'enfant va s'ouvrir un CELI. On peut s'ouvrir un CELI chez nous à partir de 18 ans. Et puis, mettre l'argent dans le CELI et apprendre un peu comment investir de façon qui fait du sens avec nous.
Donc, premier retrait d'un REI, là, le premier paiement d'aide aux études dans les 13 premières semaines d'études à temps plein, c'est 8 000 $ maximum. Si on est à temps partiel, c'est 4 000. Donc, qu'est-ce qu'on demande? Tu sais, les clients, souvent, OK, ça fait quoi? Donc, il y a un formulaire à signer, évidemment, mais aussi, il faut demander une preuve d'études postsecondaires. Cette preuve d'études postsecondaires-là, c'est tout simplement l'horaire de l'étudiant, il doit y avoir le nom de l'établissement, le nom de l'enfant, la session en cours et le statut si on est à temps plein ou à temps partiel.
Puis demandez-nous, on a des exemples pour vous, on peut vous aider avec ça parce que des fois, les étudiants, ils ne savent pas trop. Martin, il y a une certaine expérience avec le site des cégeps à cause de notre fils. Alors, il peut vous guider.
Exact. Tu sais, souvent, une capture d'écran, puis là, on ne voit pas le nom de l'étudiant, on ne voit pas le nom de l'école. Oui, mais Martin, on doit, comme firme, rendre compte au gouvernement. Ouais. Donc, les pièces justificatives doivent être correctes. Là, ouais. Donc, et oui, à chaque session, ça prend une nouvelle preuve. Donc, on n'a pas le choix.
L'autre question qu'on a souvent, c'est, puis si mon enfant ou mon petit-enfant ne poursuit pas ses études, qu'est-ce qui arrive avec le REI?
Exact. Donc, c'est sûr qu'on peut laisser ouvert là, quand même. Puis là, la date m'échappe, mais c'est quand même assez longtemps. Là, se rend dans quasiment à 30 ans là, que le REI. Puis là, je suis toute réserve là, parce que j'ai pas vérifié la date là, récemment. Puis j'ai jamais fait face à ce cas-là de toute façon. Mais on peut aussi le laisser ouvert, puis attendre, puis espérer qu'il change d'idée éventuellement. Mais plus réalistiquement, on peut donc nommer un bénéficiaire de remplacement, right? Dans un régime d'épargne études familiale, bon, ben le grand frère va pas à l'école, ben peut-être que la petite sœur va y aller, puis là, bon, on change le bénéficiaire, puis on ajoute le bénéficiaire, et le deuxième bénéficiaire pourra retirer les montants des subventions qui avaient initialement été versés pour le premier. Donc là, si mettons qu'on présume, il y a personne qui est éligible, il y a de l'argent dans un REI, personne va à l'école, qu'est-ce qui arrive? Ben le cotisant va reprendre ses cotisations, il n'y a pas d'impact fiscal, et là donc il va rester dans le REI, les subventions puis le rendement. Les subventions, ben elles retournent au gouvernement. Si personne va à l'école, le gouvernement reprend son argent. C'est correct, hein? Ça fait plein de sens.
Puis d'ailleurs, il y a une question sur le formulaire que les gens ne savent jamais répondre, qui dit ben, à quelle institution vous donnerez ces subventions-là.
Oui, c'est ça. Ben, fait que, technicalité administrative, là, mais donc si personne va à l'école, on nomme une institution qui sera bénéficiaire des montants. Encore une fois, moi, je ne me souviens pas que ça m'est arrivé.
Jamais.
Mais ça pourrait arriver. Donc là, on a retiré les cotisations, on les a retournées au gouvernement. Ensuite, donc qu'est-ce qui reste dans le plan? Il reste le rendement. Donc, soit que je, comme souscripteur, je reprends le rendement et là, à ce moment-là, il sera imposable dans mes mains. Et si j'ai des droits de cotisation REER, donc je peux aussi les transférer dans le REER en tant que cotisation, donc les rouler dans le REER, mais ça me prend un espace de droits de cotisation REER. Donc, c'est ce qui est possible de faire. Essentiellement, on ne perd rien. Tu sais, dans la morale de l'histoire, il n'y a pas de désavantage à ouvrir un RAE, parce que même si personne ne va à l'école, ben c'est comme si on n'avait jamais eu de RAE, essentiellement. On reprend nos cotisations, les rendements qu'on aurait obtenus seraient imposables, puis les subventions qu'on n'aurait jamais obtenues si on ne l'avait pas ouvert, ben on les retourne au gouvernement.
Donc, merci beaucoup, Martin. Le RAE est vraiment un outil formidable. On l'aime beaucoup. Il y a plusieurs modalités. C'est pour ça qu'on est là. C'est notre rôle de vous guider à travers tout ça. Il faut comprendre ces règles pour en tirer le maximum, ça, c'est sûr. Si vous avez des questions sur votre stratégie d'épargne ou de décaissement du RAE, communiquez avec nous. Mathieu, Michel, Martin et moi sommes toujours disponibles pour discuter de vos besoins, vos questions ou objectifs financiers personnels. Bonne rentrée à tous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.